France Inter.
Il est 8h. Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un grand discours sur l'Europe. À un mois et demi des élections, Emmanuel Macron entre en campagne tout à l'heure. Face à une extrême droite puissante, mais toujours divisée au Parlement, on va l'entendre. La une, c'est aussi le Monde qui demande à comprendre ce qui s'est passé dans deux hôpitaux de la bande de Gaza, où des charniers ont été découverts, témoignages recueillis sur place dans un instant. Leurs cheveux longs sont des antennes cosmiques. Qui nous serons au procès de six anciens cadres de la secte de la Grande Mutation. Sur les côtes du Var, aussi menacées par l'érosion, le département tente des solutions pour protéger son littoral. Et puis au Châtelet, où se préparent les flammes ou victoires des musiques actuelles. Qui est votre invité, Nicolas, à 8h20?
Eh bien, on va le demander à Léa Salamé, qui est avec nous en studio. Bonjour Léa.
Bonjour Nicolas et bonjour à tous.
Et donc, 8h20.
Elle ne s'est pas exprimée devant un micro depuis la disparition de son mari, Robert Badinter. Elle revient avec un nouvel essai. Messieurs, encore un effort, contribution à la réflexion intellectuelle sur la place de la femme et de la mère dans la société. L'historienne et philosophe Elisabeth Badinter est notre invitée à 8h20.
France Inter.
En short et crampons pour un match caritatif avec le Variété Club de France, Emmanuel Macron a marqué un but sur pénalty hier à Poissy. Le terrain sur lequel il s'apprête à entrer aujourd'hui en costume cravate paraît beaucoup plus lourd et incertain, terrain politique, dimension européenne. Coup d'envoi à 11h pour ce nouveau discours de la Sorbonne. Le précédent date de 2017, un appel à l'unité et à la souveraineté européenne. À quoi ressemblera le propos du jour? Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour.
Ça n'est pas un meeting, mais à un mois et demi des élections, c'est une entrée en campagne.
Oui, président et candidat, comme en 2022, c'est le jeu des costumes, taquine un ministre. L'Élysée promet un discours institutionnel pour dessiner l'UE à 5, 10, 15 ans, avec pour slogan « L'Europe puissance, ne pas abandonner la bagarre avec Chine, Inde, États-Unis, Russie, se défendre, s'armer, produire, investir ensemble ». On va peut-être, comme en 2017, dire dans certaines capitales que c'est irréaliste, admet son entourage, mais à la fin, tous le remercieront. Du plan de relance à la réforme des travailleurs détachés, des vaccins anti-Covid au pacte vert, du soutien militaire à l'Ukraine à la régulation du numérique jusqu'au pacte asile et migration. Emmanuel Macron veut prouver que 7 ans plus tard, son premier discours de la Sorbonne a été suivi des faits. Il a, comme dirait l'Élysée, infusé.
Et au-delà du discours bilan et perspective, Maxence, quel est le but recherché?
Au sein du gouvernement, on estime que ce sera la bascule de cette campagne, le point de départ. Pour l'instant, les Français savent à peine qu'il y a une élection. Tous comptent sur ce discours pour mobiliser un électorat qui manque d'enthousiasme, résume pudiquement une ministre. Réveiller son camp, donc, et prendre un peu de hauteur en évoquant les enjeux européens. C'est le paradoxe du jour, analyse un député de la majorité. On a besoin de lui, pour cela il est le meilleur. Et en même temps, sa présence nationalise le scrutin, donne du souffle à nos adversaires. Chaque tête de liste, ou presque, a en effet déjà prévu sa conférence de presse cet après-midi pour lui répondre point par point.
À commencer par Jordan Bardella, merci Maxence Lambrec, tête de liste RN à 32% d'intention de vote selon la dernière enquête Ipsos Radio France. La liste de Valérie Ayé pour la majorité en récolte deux fois moins. L'extrême droite arrive en tête des sondages dans 4 des 6 pays fondateurs de l'Union Européenne. Elle devrait donc progresser en nombre de sièges et les nationalistes se rêvent plus puissants malgré leur division matérialisée par 2 groupes distincts au Parlement. Reportage à Strasbourg, signé Elodie Forêt.
Pour accéder au bureau du RN, un dédale de couloir.
On est vraiment, vous voyez, au bout du bout,
ironise ce collaborateur, comme si le cordon sanitaire se matérialisait. Un cordon qui jusque-là a empêché le parti français et ses alliés d'obtenir des postes qui comptent. Jean-Paul Garot, président de la délégation RN.
Vos adversaires se sont ligués entre eux pour voter contre systématiquement, parce que c'est nous.
Réunis pour la dernière fois, de nombreux alliés du RN rêvent donc de faire tomber les murs. Vieille arlésienne, l'idée d'un grand et puissant groupe nationaliste fait son retour. Gerolf Hanmans, eurodéputé flamand du Vlaams Belang.
Former un nouveau groupe plus grand, il y aurait beaucoup plus d'influence le cas échéant. Nous sommes ouverts à tout.
Un seul grand groupe, loin d'être gagné tant le bloc, est hétérogène, divisé sur la Russie, sur l'OTAN. Le RN notamment n'a pas toujours bonne presse. Leur logique, c'est moins ils en font, moins ils font de faux pas, confie une source interne du groupe ID. Jugement sévère aussi de certains députés ECR, l'autre groupe nationaliste, comme la Belge Assita Kanko.
Honnêtement, il y a un groupe politique en particulier
Dominique Ifourian. Et moi, je suis rapporteur de la loi antiterrorisme qui sera votée demain. Je ne les ai pas vus une seule fois pendant la négociation.
Mais dans un Parlement où tous ces partis vont progresser, qu'ils s'accordent ou non, leur influence va grandir, soupire un député de gauche qui s'emploie d'ores et déjà à prévenir les lobbies. Vous ne pourrez plus vous boucher le nez. Il faudra bien parler à l'extrême droite.
Élodie Faure à Strasbourg, où Raphaël Glucksmann donnait meeting hier soir pour la liste socialiste. On l'a entendu dans le journal de 7h30. Et puisqu'on est en Europe, l'Espagne va-t-elle garder son Premier ministre ? Pedro Sanchez se donne jusqu'à lundi pour réfléchir et peut-être démissionner après l'ouverture d'une enquête contre sa femme pour trafic d'influence et corruption. Il dénonce une campagne de harcèlement contre son épouse. La plainte émane d'un collectif d'extrême droite.
Il est 8h06. Que s'est-il passé dans les deux principaux hôpitaux de la bande de Gaza ?
La Maison Blanche veut des réponses. L'ONU demande une enquête internationale comme l'Union Européenne après la découverte de fosses communes dans l'enceinte de l'hôpital Nasera à Khan Younes. La défense civile de Gaza dit avoir exhumé 340 corps. Voici le récit de Thibault Lefebvre avec les témoignages difficiles recueillis sur place par Youssef Kilani.
Une femme est assise au sol. Devant elle, deux corps dans des sacs mortuaires blancs recouverts de fleurs. Elle porte un masque chirurgical et parle au téléphone à son père.
On a retrouvé la dépouille de mon frère Mounir. Que Dieu ait pitié de son âme. Viens, papa, et apporte du parfum.
La maman, éreintée, les yeux cernés, interrompt la conversation.
Je l'ai reconnu. C'est le cœur d'une mère qui parle.
La dépouille de Mounir a été retrouvée au milieu de plus de 300 cadavres autour de l'hôpital Al-Nasser de Khan Younes. Depuis le retrait des troupes israéliennes de la ville le 7 avril, des dizaines de familles cherchent les corps de leurs proches. Le docteur Ahmed Moghrabi était dans l'établissement jusqu'au 15 février.
Pendant deux ou trois semaines, l'hôpital était en état de siège et les gens ont enterré les corps à l'intérieur de l'hôpital.
Les familles de victimes accusent aujourd'hui l'armée israélienne d'avoir déterré les cadavres pour effectuer des prélèvements ADN, puis de les avoir jetés dans des fosses communes. Dans un communiqué, l'état-major reconnaît avoir cherché des otages parmi les dépouilles, mais nie avoir déplacé les corps. Selon le Hamas, des cadavres ont été retrouvés pieds et mains liés. L'état hébreu dément.
Thibault Lefebvre à Jérusalem avec les témoignages de Youssef Kilani à Gaza. Hier, le Hamas a diffusé une vidéo d'un des otages israéliens détenus depuis le 7 octobre, Hersh Goldberg Paulin, 23 ans, enlevé lors du festival de musique Nova dans le sud du pays. 61 milliards de dollars pour l'Ukraine et des missiles, pas n'importe lesquels. Les États-Unis annoncent la livraison d'attaques MS, des missiles à longue portée. Les premiers sont déjà arrivés discrètement il y a quelques jours. Un pas de plus franchi dans l'aide militaire à l'Ukraine. Étienne Monin, ce pourrait être un tournant dans la guerre.
Cette arme était demandée avec insistance par les Ukrainiens. Elle peut être déterminante. Elle devrait permettre à l'armée de frapper les bases arrières russes. La portée est de 300 km. Une première version bridée à 165 km avait été livrée. Avec cette nouvelle version, les Ukrainiens peuvent notamment espérer toucher le pont stratégique de Kerch qui relie la Crimée au territoire de Russie. C'est un changement majeur dans la politique américaine. Jusqu'à présent, Joe Biden s'était opposé à l'envoi de ce type d'armes, mais l'utilisation répétée par Moscou de missiles balistiques et le ciblage ces derniers jours des infrastructures critiques en Ukraine ont convaincu les Américains qu'il fallait rééquilibrer les forces. Un premier lot a déjà été livré la semaine dernière. Le président Biden a approuvé secrètement la livraison de 100 missiles longue portée il y a deux mois d'après le New York Times. Deux d'entre eux ont déjà servi. Ils ont visé les forces russes en Crimée et dans le sud de l'Ukraine.
Étienne Monin, l'Ukraine qui fait tout décidément pour faire rentrer les hommes en âge de combattre. Kiev annonce que plus aucun passeport ne sera délivré à l'étranger à ceux qui ont entre 18 et 60 ans. Anatomie d'une secte au tribunal de Paris, la grande mutation dont le gourou fondateur ancien du CNRS disait avoir parcouru 22 planètes avant de revenir sur Terre pour sauver les hommes. Mort en 2018, ce sont donc 6 de ses lieutenants qui sont jugés depuis hier pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine. Charlotte Piret, la cour a commencé par entendre d'anciens membres de la grande mutation et leurs familles.
Sept ans pendant Pendant 7 ans, Dominique a été adepte de la grande mutation, fasciné par son gourou, ancien chercheur au CNRS, qui expliquait son handicap dû à un accident de moto par le fait qu'il avait retourné le canal cosmique. Dans ce mouvement où le monde était divisé en deux races et toute décision prise en fonction d'un pendule, Dominique a même tenté d'embarquer son fils, Robin, dans un premier temps mis en confiance par le statut des cadres de la grande mutation.
En tout cas, ils se présentaient comme des scientifiques, des chercheurs. Et il y a une période de séduction. Ces gens-là nous disent qu'on a quelque chose de spécial, qu'on est à part, qu'on est des êtres de lumière, que sais-je encore. On est mis dans un premier temps en valeur et progressivement on nous enlève tout esprit critique en fait.
Et cette mécanique, Victor l'a vécu d'encore plus près en assistant à plusieurs réunions collectives alors qu'il était adolescent.
Quand il y a des personnes qui posaient des questions, on leur faisait comprendre par des rires un peu gentils, faussement gentils, qu'ils comprendront, mais plus tard. C'est la pire chose en fait pour eux. Quelqu'un qui fait preuve d'esprit critique, donc il tourne ça en dérision, de manière à ce qu'il y ait une telle pression dans le groupe que personne n'a envie de se distancier des autres, d'être à la ramasse et de perdre le message en fait.
Dans la salle, les prévenus aux longs cheveux en guise d'antenne cosmique, selon eux, ces cadres du mouvement sont restés impassibles lors des témoignages de victimes. Les premiers doivent s'expliquer à la barre cet après-midi.
Charlotte Piret, pas de grève des contrôleurs aériens finalement, mais une gigantesque pagaille tout de même dans le ciel français et européen où les plans de vol n'ont pas eu le temps de changer. Trois quarts des décollages et atterrissages supprimés à Orly aujourd'hui, plus de la moitié à Roissy et Marseille. Et 45% ailleurs en France, selon les témoignages recueillis ce matin, tous les passagers n'ont pas été prévenus de l'annulation de leur voyage. Plus visibles au travail, les employés LGBT+ bénéficient aussi de davantage de bienveillance. Enseignement encourageant du dernier baromètre de l'association L'Autre Cercle, qui œuvre en faveur de l'inclusion des lesbiennes, gays et trans au travail. Subsistent des points noirs. 3 personnes LGBT+ sur 10 déclarent avoir été victimes d'au moins une agression dans leur entreprise. C'est le cas de Jean qui s'est confié à Mariam El Kurdi.
Jean, 30 ans, était chargé d'animer les réseaux sociaux dans son ancienne boîte.
Alors moi je suis un homme gay, j'ai une expression de genre assez fluide. Je peux aller au travail en portant du maquillage, de l'eyeliner.
Pas de code vestimentaire spécial chez cet employeur dont il croyait l'esprit ouvert. Une jeune petite entreprise qu'il a fini par quitter après des agressions verbales répétées de la part de sa responsable.
Chaque fois, elle me reprenait sur des éléments de mon physique qui faisaient référence à mon expression de genre. Elle faisait des remarques sur les colliers que je portais. En fait, c'était beaucoup de micro-agressions. C'était pesant.
Après son départ, cette chef est licenciée pour harcèlement et discrimination, poursuit Jean, qui depuis a retrouvé du travail.
Depuis, l'entreprise s'est remise en question et elle a mis en place une politique de diversité et inclusion. Mais voilà, il a fallu que je dénonce pour que cela arrive.
Comme lui, une personne LGBT+ sur 3 affirme avoir été victime d'au moins une agression dans son entreprise, d'après l'association L'Autre Cercle. Parfois des insultes, dénonce sa porte-parole Catherine Tripon.
On est quand même en 2024. C'est-à-dire que traiter quelqu'un de PD ou de Gouine ou de travelot, désolé, pas sur le lieu de travail. Il y a des règles à respecter. Quand il y a un propos, un comportement déplacé, il faut sanctionner. Si votre manager proximité ou vos collègues ne réagissent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de climat inclusif.
Près de la moitié des gays, lesbiennes ou trans n'osent pas le dire au travail, alors qu'être soi-même, c'est essentiel pour l'inclusion et le bien-être, insiste aussi l'association.
Mariam El Kurdi, le quartier de Pigalle à Paris n'a plus tout à fait la même physionomie ce matin. Les ailes de l'emblématique Moulin Rouge sont tombées dans la nuit sans faire de blessés, mais la devanture est endommagée. Les lettres mou de Moulin Rouge ont été arrachées. Plus grave, ces terrains qui s'effondrent, ces plages qui disparaissent, ces maisons qui tombent. 20% du littoral français est grignoté par l'érosion côtière. Selon le centre d'études et d'expertise CEREMA, plus de 5000 logements seront concernés d'ici 2050, dont plus de 400 dans le Var. En première ligne, le département François Ventéjou tente donc de trouver des solutions pour préserver son littoral.
Sur cette plage de hier exposée au vent, la mer gagne du terrain plusieurs dizaines de centimètres chaque année.
Après chaque tempête, en fait, on constate qu'inexorablement, le trait de côte recule.
Yves Lacroix est enseignant-chercheur à l'Université de Toulon. Il montre les clôtures en bois installées pour ralentir le phénomène.
Elles sont là pour essayer de piéger les sédiments qui sont emportés par le vent. Il y a une part de l'érosion qui est due au vent.
Pour le reste, il faut agir en mer et là, à chaque collectivité, sa technique. Dans le golfe de Saint-Tropez, des géotubes viennent d'être posés au fond de l'eau à 80 mètres du rivage. Vincent Maurice est le maire de Sainte-Maxime.
On voit une tache brune, ce sont des tubes en textile remplis de sable qui forment des boudins de 3,5 mètres de diamètre et qui visent à lutter contre le le retrait du sable pour pas que la mer le capte et l'aspire avec elle, et également lutter contre la houle de fond.
Une installation coûteuse, plusieurs millions d'euros, mais qui ne pourrait pas être efficace sur tout le littoral. Gilles Vincent est le vice-président en charge de l'environnement à la métropole de Toulon.
Comme on dit, au cas par cas, ça dépend aussi des courants et des endroits où on n'aura pas d'autre solution que de mettre en place des solutions dures, c'est-à-dire des murs en béton, et en tous les cas, il faudra qu'on regarde quel est l'impact sur l'environnement d'à côté.
Une lutte contre l'érosion que cet élu compare au mythe de Sisyphe.
François Ventéjoux dans le Var, où nous attend Jérôme Cadet pour un 13-14 en résidence, si j'ose dire, au Lavandou. Le PSG va devoir attendre. Monaco a retardé son sacre en battant Lille 1-0. Les Parisiens auraient sinon été champions dès hier soir après leur victoire 4-1 à Lorient. Ce sera chose faite samedi si Paris bat le Havre. On suppose que les bouteilles de champagne sont déjà commandées. Ce sont les victoires du rap, du R&B, des musiques africaines et caribéennes. Des flammes auront lieu ce soir pour la deuxième année à Paris, au Châtelet. Pas encore une institution, mais presque. Mathieu Culeron, il y aura du très beau monde sur scène.
Je vais crier le bordel dans le tunnel, j'ai dû couper les ponts.
Après le succès d'une première version au Théâtre du Châtelet, la cérémonie des flammes revient avec la plupart des stars du Top 50. Et pour cette édition 2024, tout le monde veut en être, comme le confirment Ahmad et Tom, producteurs des flammes.
Il y a beaucoup d'attentes. Tout le monde veut participer, tout le monde veut être là, tout le monde veut être dans le Châtelet. Bon, il y aura pas assez de place, mais bon.
Les Tiako, les Gazo, les Warrenois, etc. Ils sont tous présents dans différentes catégories. Ils n'ont pas eu tous la même année. Il y en a qui ont sorti des albums, d'autres des albums communs, d'autres pas d'albums, etc. Donc, mais c'est vrai que ça a été une année prolifique, on va dire, en 2023. Il y a eu beaucoup, beaucoup de sorties d'albums.
Les Flammes qui ont plus que doublé leur nombre de votants, passant de 130 000 à plus de 280 000. Et pour rendre la cérémonie encore plus populaire, une partie des concerts aura lieu sur le parvis du Théâtre du Châtelet. Ahmad, coproducteur des Flammes.
En fait, on aura un pré-show en extérieur qui accueillera du public et il y aura des performances ici en extérieur. Ça pourra pallier au problème du public, parce que l'année dernière, c'est vrai que c'est un des retours qu'on avait eu, qu'il y avait beaucoup de gens de l'industrie dans le théâtre, mais pas beaucoup de public. Et là, pour le coup, on va y remédier.
Reine de la soirée, Aya Nakamura est nommée dans 6 catégories cette année. La chanteuse qui pourrait rentrer sur l'hymne à la joie d'Edith Piaf lors de cette deuxième édition des Flammes au Châtelet. Mais
comment ça ? Les Flammes à suivre dès 21h ce soir en direct sur YouTube, sur Twitch, mais aussi à la télé, ah oui. Donc la bonne vieille télévision W9.
Merci Florence Paracuelos.